Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
Nous abordons aujourd'hui un troisième paragraphe dans le domaine de l'Église, dans cet article 9 du catéchisme de l'Église catholique qui aborde la question de la Sainte Église catholique. Ce troisième paragraphe est sur le mystère de l'Église. Et de fait, on va nous introduire dans ce mystère assez étonnant parce qu'il est dit qu'au numéro 770, que l'Église est dans l'histoire, mais elle la transcende en même temps. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de visible et quelque chose d'invisible dans l'Église?
Oui, et le Concile Vatican II est très ferme là-dessus. En désignant l'Église comme une seule réalité complexe faite d'un double élément humain et divin, Lumen Gentium 8. Et donc, si c'est humain, c'est visible, si c'est divin, c'est invisible. Et donc, il y a nécessairement alliage de deux dimensions, une dimension plus visible, et à la limite, d'ailleurs, on nous confond parfois avec une association, je dirais, publique, comme on aurait d'autres associations publiques. On est enregistré au niveau de l'État comme une association publique, dans le fond, et on a une visibilité, on a des assemblées générales, on a une sorte de société visible. Et c'est vrai que l'aspect visible implique un droit, ubi societas, ibi ius, là où il y a une société, il y a un droit, et de fait, nous avons un droit canonique, donc il y a vraiment une visibilité de l'Église tangible, mais ce qui est l'invisible, pour nous, c'est le plus important, c'est ce qui cause la grâce, puisque c'est Dieu agissant au milieu des hommes et les attirant à lui, et donc cette réalité invisible, c'est Dieu lui-même, cause de la grâce, et opérant déjà la grâce parmi nous, non pas une grâce seulement future, la gloire, qui serait donnée à la fin des temps, mais la grâce dès ici-bas, dans des réalités qui sont là aussi à la fois visibles et invisibles. Je pense en premier lieu ce qui est le cœur de nos églises, là où est le tabernacle, là où est la sainte présence, eh bien, il y a l'Eucharistie qui est gardée dans le tabernacle, qui est une réalité à la fois visible et invisible. Ah oui. Et donc, il y a vraiment des réalités de grâce qui sont des effets de la grâce qui tiennent de ce qui constitue l'Église, réalité visible et invisible.
Et pour approfondir ce thème d'une Église complexe, mais on reviendra sur l'expression complexe par la suite, mais au numéro 771, le catéchisme propose des doublons. Il dit ce numéro que l'Église est à la fois l'un et l'autre. Tu peux reprendre ces trois expressions proposées?
Alors la toute première, c'est société dotée d'organes hiérarchiques, et d'autre part, deuxième élément, corps mystique du Christ. Évidemment, on voit bien que la société dotée d'organes hiérarchiques, ça se réfère à la société, quand je disais tout à l'heure « ubi societas, ibi ius », c'est-à-dire là où il y a une société, il y a un droit, et corps mystique du Christ, on voit bien que c'est la dimension spirituelle. La deuxième, c'est « assemblée visible », là aussi, les chrétiens se réunissent le dimanche, on les appelait même, dès le début de l'Antiquité, ceux qui se réunissent le dimanche, les hommes du dimanche, parce que c'était le jour de la résurrection. C'est ainsi que, dans les procès des premiers chrétiens, ils se font appeler. Assemblée visible et communauté spirituelle. C'est l'aspect invisible, communauté spirituelle, puisque dans le fond, ce qui est spirituel ne se voit pas, comme dit Jésus à la Samaritaine, Dieu est esprit, comme le vent, on ne sait d'où il vient ni où il va, et il est pourtant à l'œuvre. Et cette communauté spirituelle, pour nous, évidemment, est le but de cette assemblée visible. Troisièmement, Église terrestre, et Église terrestre, ça veut dire une histoire, ça veut dire des temps, toute une série d'engagement où des hommes prennent des engagements et puis laissent leurs engagements à leurs successeurs, la succession apostolique, les nombreux prêtres coopérateurs des évêques, les diacres, les fidèles, les religieux, les religieuses, tout cela est une église terrestre, visible, palpable, et église parée de dons célestes, parce que c'est clair que sans le Saint-Esprit, toutes ces réalités terrestres s'écrouleraient comme s'écroulent tous les empires, toutes les associations, tous les groupes d'hommes finissent toujours par se diviser et par s'éteindre, faute de combattants, faute de force. Seuls des dons célestes qui sont donnés régulièrement et avec vraiment une orientation vers une finalité fixe, eh bien, permettent une pérennité de cette Église à la fois terrestre et d'une certaine manière céleste déjà.
Donc l'Église est toujours sous cet aspect complexe, comme il est dit, c'est-à-dire qu'il y a toujours ces deux types de réalités. Ou est-ce qu'on peut dire, bah, tel prêtre qui est de l'Église, lui, il est plutôt de la partie céleste, tel autre prêtre est plutôt de la partie terrestre, ou telle communauté, par exemple à Rome, c'est plutôt céleste, mais à New York, on pourrait se poser des questions. Est-ce qu'on peut faire ce genre de distinction ? C'est partout en tout lieu ?
Alors, c'est partout en tout lieu, ce ne serait pas une bonne chose. Évidemment, on peut toujours caractériser les personnes d'une manière un peu médiatique et journalistique et dire, ben, là, on sent davantage vibrer l'aspect du corps mystique du Seigneur et en d'autres endroits, on verra plus l'institution. Mais ce serait une grande erreur de vouloir couper au couteau et vouloir faire passer un fil qui séparerait le céleste et du terrestre. Les deux sont engagés, mais nous avons le modèle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Verbe de Dieu, deuxième personne de la Trinité, et qui s'est incarné avec une humanité tangible, palpable, audible. Elle était là et on voyait vraiment le sujet de notre Seigneur présent aux hommes à tel point qu'il pouvait même dire « qui me voit, voit le Père ». Extraordinaire parole, c'est-à-dire que dans cette visibilité que l'on avait de notre Seigneur Jésus-Christ dans son parcours terrestre, on pouvait voir en même temps le Père à l'œuvre et croire que Dieu était présent et que Jésus pouvait être appelé, comme fait saint Thomas, « mon Seigneur
et mon Dieu ». Mais on peut associer complexe à compliqué, mais en fait, là, si on compare avec le Christ, on peut imaginer une Église complexe, mais pas imparfaite. Ça peut y avoir une beauté au travers de cette Église. Ça ne veut pas dire compliqué, imparfait, le mot complexe. Alors.
Et effectivement, le mot complexe n'est peut-être pas le mieux choisi. C'est celui qu'a utilisé le Concile Vatican II dans Lumen Gentium numéro 8. Et on pourrait se dire, est-ce qu'ils auraient pu utiliser une autre expression ? Mais je pense qu'ils veulent insister pour bien dire que ça n'est pas un simplisme comme une association, je dirais, commune, comme on rencontre dans un pays une association philanthropique, par exemple, où les choses sont assez simples. Il y a un bureau, il y a un secrétaire, il y a un directeur, il y a une assemblée chaque année, ça donne une impression un peu simple. Nous sommes dans une réalité complexe parce que l'Église, comme disait Bossuet, le grand Jacques Bénigne Bossuet, l'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. Et donc, il y a un prolongement, dans le fond, de la vérité qu'est Jésus-Christ, une personne composée. Alors, c'est peut-être le mot « composé » qui irait mieux, puisque quand on parle de Jésus, on parle d'une personne composée à cause de sa nature divine et de sa nature humaine. Donc, on pourrait dire une seule réalité composée faite d'un double élément humain et divin. Je ne permettrai pas de corriger le concile du Bonapo.
Et on a une belle citation ensuite de « Sacrosanctum Concilium ». Tu peux redire ce que c'est que Sacrosanctum Concilium ?
Donc, Sacrosanctum Concilium, c'est l'une des quatre constitutions dogmatiques de l'Église, la première qui a été votée en 1963 et qui engage une réforme de la liturgie. Oui. C'est celle qu'a votée Mgr Lefebvre, engageant ainsi toute sa fraternité derrière cette volonté de réforme, bien qu'après ils aient changé de cap, mais il y a quand même une signature qui est là et qu'il faut souligner auprès de nos auditeurs.
Voici le paragraphe, si tu veux, où tu veux le lire et le en dire un mot.
Vas-y, dis-le.
Il appartient en propre à l'Église d'être à la fois humaine et divine, visible et riche de réalités invisibles, fervente dans l'action et occupée à la contemplation, présente dans le monde et pourtant étrangère. Qu'on a pour l'instant cette dimension complexe dont on parlait, mais de telle sorte qu'en elle, ce qui est humain est ordonné et soumis au divin, ce qui est visible à l'invisible, ce qui relève de l'action à la contemplation et ce qui est présent à la cité future que nous recherchons.
C'est un magnifique texte, effectivement, et cela fait penser en disant que nous sommes dans le monde et d'une manière pourtant étrangère à la fameuse très belle lettre à Diognète, hein, les chrétiens dans le monde, et cet auteur écrivait « Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes, car ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre, ils n'emploient pas quelques dialectes extraordinaires, leur genre de vie n'a rien de singulier, leur doctrine n'a pas été découverte par l'imagination ou par les rêveries d'esprits inquiets, ils ne se font pas comme tant d'autres les champions d'une doctrine humaine, ils habitent les cités grecques et les cités barbares, suivant le destin de chacun, ils se conforment aux usages locaux, et pourtant, ils sont, comme dira un petit peu plus loin cette épître à Diognète, comme l'âme dans le corps.
Merci, frère Edouard.
À bientôt.
À bientôt.